喂一下，喂一下，喂。No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Aligre FM pour votre émission Au cœur du tango. C'est la première émission radiophonique régulière en France sur la culture du tango en FM. C'est ça notre originalité. Entre autres, une émission co-animée par Sylvain Berthaud. Bonjour Sylvain.
Bonjour Nathalie.
Et voilà.
Et co-animée donc par Nathalie Perrin.
Voilà, c'est moi. Alors je remercie tout de suite Armand Gury d'être avec nous en cabine à la technique. Il nous fait le plaisir, voilà, de mettre en boîte, en forme cette émission qui sera sans doute, nous l'espérons, magnifique. Encore.
Alors, chère Nathalie, vous vous souvenez qu'un de nos ouvrages de référence est le Dictionnaire passionné du tango, publié au Seuil en 2015.
Tout à fait.
Et nous avions reçu les co-auteurs Gwenaël de Nigaud, Jean-Louis Mingallon, Emmanuel Honorin. C'était pour fêter les 10 ans de la parution de cet ouvrage, déjà 10 ans. Un ouvrage passionné et passionnant. Alors, rappelez-vous de cette émission, n'hésitez pas à l'écouter en podcast sur www.aligrefm.org ou www.cascabellito.fr.
Et voici que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau Jean-Louis Mingallon dans le studio d'Aligre FM. On est très heureux, Jean-Louis Mingallon, qui est donc journaliste, spécialiste des musiques du monde, co-auteur du Dictionnaire passionné du tango. Bienvenue, cher Jean-Louis, merci d'être là.
Bonjour Nathalie, bonjour Sylvain.
Alors, cher Jean-Louis, nos échanges et discussions se sont poursuivis après la première émission que nous avions fait ensemble. Vous êtes un passionné, comme l'indique le titre de votre ouvrage, un expert du tango. Et nous avons notamment parlé de cette fascinante capacité qu'a le tango, sa musique, sa culture, à parcourir le monde, à se déployer de pays en pays et à toujours se métisser pour donner naissance à des variantes locales, à s'enrichir encore et encore, à contaminer encore des cultures. Et justement, émission après émission, c'est aussi la vocation de Au cœur du tango, de chercher à emmener nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs dans ces nombreux voyages du tango pour avoir une vision de plus en plus large de cette culture qui est désormais mondiale. Mon cher Jean-Louis, ça fait longtemps que vous avez réfléchi à comment présenter ces différents voyages de façon plus cohérente et même à en dresser une fresque. C'est un projet ambitieux.
Alors, vous êtes là pour ça aujourd'hui. Votre expertise sur ces voyages du tango.
Oui, c'est une chose d'ailleurs qui est apparue assez rapidement quand on a commencé à écrire ce dictionnaire. C'est-à-dire que on aurait pu s'en tenir à la naissance du tango et puis tous les éléments qui concernent le tango, la musique, la danse. Mmh. Et on s'est aperçu que le tango voyageait tout le temps.
Oui.
C'est-à-dire que ça a commencé dès le départ. Parce que le premier voyage, c'est le voyage des migrants, c'est-à-dire de ceux qui ont été à l'origine de la création du tango.
Oui.
Les migrants qui viennent du monde entier, essentiellement d'Italie, bien sûr, mais aussi d'ailleurs. Et un peu d'Espagne, un peu de France aussi, et on en reparlera certainement tout à l'heure, une seconde, parce que je crois qu'on fera entendre quelque chose. Mais Carlo Gardel, par exemple, lui, il a 2-3 ans quand il arrive avec sa maman à Buenos Aires. Il s'appelle encore Charles Gardès. Mm. Et quand il arrive là-bas, il a 2-3 ans, mais petit à petit, parce qu'il est avec sa maman, et sa maman est blanchisseuse, elle est massive, tout ça. Donc, elle travaille aussi pour les artistes de l'opéra. Et donc, il entend assez souvent des musiques d'opéra et des chants d'opéra. Donc, il commence à apprendre rapidement, par cœur quasiment. Et donc, très très vite, il devient chanteur, mais sans le savoir, sans en faire profession, bien entendu. Voilà, donc c'est un cas exceptionnel, puisque lui, il est de Toulouse, il va devenir, comme migrant à 3 ans, il va devenir le plus grand chanteur de tango.
D'Argentine.
Donc c'est un premier voyage, effectivement. Il y en a un autre qu'on peut évoquer, c'est celui aussi des esclaves et de la culture noire africaine.
Absolument. C'est le deuxième voyage de ceux qui viennent, ils n'ont pas choisi ce voyage-là. Ils ont été forcés et les descendants de ces esclaves ont constitué un élément important de l'immigration, d'une certaine manière, et en même temps, une part importante de la création du tango, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient à un moment donné, en tout cas, quand le tango a commencé à naître vers la fin du 19e, c'est vrai que c'était à la fois une certaine musique et une certaine danse. Ils avaient déjà ça pour eux. Donc ça s'est mélangé au reste. Donc c'est important, la part noire du tango qui a été longtemps d'ailleurs occultée. Hein.
Oui. Alors on aura l'occasion d'en reparler. On a comme projet de faire une émission autour de l'ouvrage de référence de Michel Plisson, Tango du noir au blanc, qui reste quand même une base importante. Et puis on pourra reparler aussi des études de Caceres aussi, qui a beaucoup travaillé autour de la négritude et des origines noires du tango. Autre voyage encore, évidemment, le voyage de l'instrument emblématique du tango.
Il arrive un peu plus tard, lui, d'ailleurs. Il arrive après les premiers éléments de musique de tango, c'est-à-dire le piano, en général dans les bas-fonds, dans les tripots, le petit trio, flûte, guitare, violon. Et lui, il arrive un peu après. On ne sait pas très bien comment, d'ailleurs. C'est probablement soit des musiciens, soit un commercial qui a apporté un jour un bandoneon. Il a joué là-bas au milieu des gens qui étaient en train de chercher des choses comme ça dans le tango naissant. Et le son du bandoneon a été immédiatement... Ah, il a happé l'attention de tous les gens qui s'intéressaient en train de créer le tango. Et c'est devenu rapidement l'instrument fétiche et emblématique du tango.
Absolument. Alors je crois qu'on peut l'annoncer.
Et il vient d'Allemagne.
Tout à fait.
Alors, on peut l'annoncer, on aura également une émission consacrée aux bandes de néon avec la participation exceptionnelle d'Olivier Manouri et donc de Simone Tolomeo également qui se joindra à nous et qui nous présenteront eux-mêmes leurs instruments, leurs origines et toute cette histoire incroyable du bande de néon.
Alors, petite précision, la plus grande école de bande de néon étant à Gennevilliers.
Oui, absolument.
C'est incroyable.
On en reparlera effectivement dans ce voyage français. Donc, cher Jean-Louis, comme première illustration musicale, ce que nous vous proposons, c'est d'écouter le grand Carlos Gardel que vous venez d'évoquer dans un enregistrement bien plus tardif que celui des origines, hein, puisque c'est une chanson qu'il a gravée en 1930. Mais le thème du morceau nous semblait intéressant. Il est en rapport avec la naissance même de la nation argentine en 1810. Le 25 mai 1810, ce jour-là, le peuple se rassemble à Buenos Aires et obtient l'indépendance de l'Argentine vis-à-vis du gouvernement espagnol. Donc, la légende dit qu'au moment de ce rassemblement et de cette liberté acquise, les nuages s'ouvrent, le soleil se met à briller. Et c'est ce fameux soleil qu'on voit sur le drapeau d'ailleurs de l'Argentine. Alors très je vous propose d'écouter Carlos Gardel. On est dans un style folklorique, on n'est pas du tout dans un style tango. On est bien dans quelque chose du criollo, de la tradition criollo qu'a aussi représenté Carlos Gardel. Et donc, on va écouter...
El sol del 25.
El 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz de plata va reflejando, y su luz de plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas. Me quedan sus alborotos al de las dianas.
rose y el clamoreo. Viva la patria siosa y el clamoreo. Inocente en la sangre, cierto hormigueo. Inocente en la sangre, cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos.
De retour sur l'antenne d'Aligre FM et votre émission, mesdames, messieurs, au cœur du tango. Cette émission que nous adorons, qui connaît du succès, nous vous remercions déjà de votre fidélité et de nous écouter sur Aligre FM 93.1. Jean-Louis Mingallon est notre invité. De choc, de charme et d'expertise. Voilà pour ses premiers voyages sur le tango. Jean-Louis, vous parliez de Gardel hors antenne.
Oui, c'était l'époque où Gardel était encore plutôt dans le folklore et pas encore complètement dans le tango, même si dans les années 30, il continue encore à faire des choses comme ça. Mais là, il a choisi un style qui est le... C'est une musique et une danse, d'ailleurs, qui se fait avec des foulards. Hein. Mmh. C'est dans le même style que la chacarera et d'autres, oui. D'autres folklores comme ça. Et là, ça s'appelle le gatto patriottico.
Le gâteau,
c'est une certaine danse et musique, et patriotique parce qu'effectivement, là, il parle d'un moment important qui est la naissance de la République argentine.
Oui, on écoutait Carlos Gardel, j'ai oublié de le dire, El Sol del 25 au 1930.
Alors, c'était le moyen d'évoquer effectivement ces premiers voyages du tango qui ont conduit finalement à cette naissance du tango en Argentine. Maintenant, on va aborder ce voyage français, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, cher Jean-Louis. Comment commence-t-il réellement ce voyage vers la France et pourquoi ?
Alors, avant de commencer à parler de ça, je voudrais quand même souligner qu'il y a un homme important qui a disparu, qui a été mon guide, qui s'appelle Nardo Zalco, qui a écrit un livre formidable, qui raconte
absolument,
tout justement
le
dans les rapports France-Argentine. Il a Paris-Buenos Aires, un siècle de tango. Voilà, c'est un ouvrage remarquable et je salue toujours la mémoire de cet homme, voilà, qui a été mon guide. Alors, comment et pourquoi ? Ben, au début du XXe siècle, pour diverses raisons, et entre autres le fait que la France, c'était à ce moment-là, dans l'Amérique latine, une sorte de référence culturelle. Mmh. Pour les artistes de l'Amérique latine, l'idée de venir en France, se faire reconnaître par la France, était important. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est aussi le problème de la technique d'enregistrement. Et en France, on avait pris un peu plus d'avance que dans le pays là-bas, donc Rio de la Plata. Donc, un certain nombre déjà de musiciens arrivent. Ils ne sont pas très, très nombreux hein, dans les années 1905-1906. Il y a Gobi, Gobi, et puis il vient avec sa femme qui est chilienne. Lui, du Uruguayen d'ailleurs. Et elle, est chilienne.
Alors, il faut préciser que Alfredo Gobi, il ne faut pas le confondre avec Alfredo Gobi.
Le fils.
Voilà. Donc, tous les danseurs de tango et les connaisseurs de la musique du tango ont en mémoire... les compositions d'Alfredo Gobi, le fils. Là, effectivement, on est dans les origines et c'est parents qui arrivent à Paris dans les années 1910. Donc.
Un peu avant même. Et d'ailleurs, le fils Gobi, il naît à Paris. Donc, ils arrivent ici et on pourrait s'attendre à ce que ça se passe comme dans le Rio de la Plata. C'est-à-dire que ça démarre dans les bas-fonds, dans les tripots, dans les petits bordels, les petits machins, les petits cabarets. Les trucs. Bon, ça ne démarre pas du tout comme ça. Et les Gobi et sa femme, ils font des concerts, des enregistrements, mais curieusement, il n'y a pas de... Ils ne sont pas à l'origine de cette espèce d'introduction du tango à Paris. Ça se passe autrement. Pourquoi ? Ça, c'est un mystère. En tout cas, en 1911, on a des témoignages et dans les recherches, dans les archives, tout ça, on a retrouvé que c'était l'époque des salons. La haute société parisienne avait des salons. Oui. Bon. Il y a un salon qui est celui de Madame de Resquet, qui est la femme d'un grand chanteur d'opéra polonais. Et Madame de Resquet, elle a pris l'habitude depuis un moment d'organiser comme ça des choses autour de la musique et de la danse pour un certain nombre de pays du monde. Comme ça, c'est un peu le moment où on va dire la France s'ouvre aux cultures du monde d'une certaine manière. Et ce soir-là, elle a invité un Argentin qui a 25 ans, qui s'appelle Giraldes. Et elle propose à Giraldes, qui est venu avec un copain pianiste, le pianiste s'appelle Bouchardot, et elle lui propose, si vous pouvez, avec le piano, le pianiste va jouer un tango, et si vous pouvez nous montrer comment ça se danse, cette chose dont on commence à parler quand même depuis un moment, parce qu'elle a quelques années. Bon. Il dit, oui, très bien, évidemment, il dit, mais oui, mais il me faut une partenaire pour que je vous montre comment ça se passe. Alors, il se trouve que dans l'assistance, il y a deux ou trois femmes qui ont fait de la danse, un classique, qui ont, comme je disais, un petit peu la connaissance de quoi faire de son corps, changer de poids, se mettre dans les jambes sur l'autre, un pas en avant, un pas en arrière. Il fait ça rapidement avec une femme qui comprend très, très vite comment ça se passe. Il la colle contre lui et là, elle commence à spammer. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'assemblée, toutes les femmes qui sont là disent « à moi, à moi, à moi ». Elles font la queue les unes derrière les autres pour faire dans les bras de ce jeune homme. Bon. Et ça démarre comme ça. Et du jour au lendemain, ça se passe comme une traînée de poudre. Tous les salons parisiens, il y en a un paquet, décident d'avoir un danseur de tango pour faire le soirée tango aussi dans ces salons-là. Ça démarre comme ça.
Donc ça démarre sur un air de piano joué par Bouchardo. Ce morceau, on le connaît, c'est El Entrerriano.
Absolument.
Et c'est pourquoi on propose à nos auditeurs maintenant d'écouter un enregistrement fait dans les années 2000 par un pianiste, Javier Tucat Moreno.
Tout à fait.
De El Entrerriano.
de retour avec vous, chers auditrices, auditeurs, et quel plaisir dans notre émission Au cœur du tango, votre émission sur Aligre FM 93.1. On écoutait Javier Tucat Moreno, El Entre Riano, et on est en 2000.
On était en 1911, voilà. on était dans les salons de Marie de Resque, donc, que vient d'évoquer Jean-Louis Mingallon.
Notre invité ce soir.
Et donc, ça y est, cette danse vient d'apparaître à Paris. Elle se développe comment finalement maintenant ?
Alors, il y a une anecdote quand même sur l'histoire de l'arrivée du tango dans les salons. C'est-à-dire que la majorité des participants dans ces salons, la grande bourgeoisie, l'aristocratie, les banquiers, les chefs d'entreprise, tout ça, bon, c'est que c'est une majorité catholique. Mmh. Et là, les participants finissent par se dire, mais parce qu'évidemment, Giraldès qui a pris le tango dans les bas-fonds, il fait un tango un peu chaud.
Oui, un peu collé.
Un peu collé, avec les jambes qui s'entortillent comme ça. Bon, et les gens sont là, ils se disent, mais il faudrait quand même qu'on montre ça à un prélat catholique qui nous dit si on a le droit de danser ça. Donc, il faut venir un soir un prélat catholique. Et Giraldès, avec peut-être Marie de Risqué, qui a appris très vite aussi à danser, on verra après comment et pourquoi, et où. Donc, il y a une démonstration. Le prélat, il est assis, regarde le couple danser. Et à la fin, il dit, écoutez, bon, moi, je suis comme le pape, hein, je n'interdirai pas le tango. Le pape, il préfère les musiques italiennes, la Forlan, la Tarantelle, choses comme ça, mais il n'a jamais interdit. Mais expliquez-moi quand même pourquoi on danse le tango debout.
Très chouette. D'accord.
Et alors, évidemment, tous les salons veulent un professeur. Et là, il y en a un paquet. Tout d'un coup, ils arrivent tous en masse. Il y a Simara, il y a Casiremo Aïn, il y a Sabrino, il y a tous les grands danseurs, plus des gens moins connus, mais tous les grands danseurs arrivent pour se faire des fans.
Ils vont faire fortune.
C'était une petite fortune quand même. Parce que à chaque fois, quand même, on connaît les chiffres, c'était pas rien, les cours de tango. Hein.
Oui.
Plus cher qu'aujourd'hui.
Ah bon.
C'est clair.
Voilà, donc ça se répand. Et la première conséquence, c'est que ça se répand partout dans tous les salons, avec tout le monde qui va voir son prof de tango. Et la deuxième chose, c'est que c'est la naissance de la tangomania.
Oui, c'est ça.
Du jour au lendemain, tout est tango.
Oui.
Ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on vend n'importe quoi, on crée un dentifrice, on crée un pantalon, on crée, je ne sais pas quoi, un soutien-gorge. Tout est tango.
Des chocolats. Tout,
n'importe quoi.
On mange tango, on s'habille tango.
On fait un déjeuner tango, on fait un souper tango, tout est tango. C'est impressionnant. Et quand on regarde les archives de l'époque, notamment les coupures de presse, c'est inimaginable.
On est dans quelles années, Jean-Louis Mingallon ?
C'est à partir, entre 1911, justement, à partir du moment où ça démarre dans la danse, et jusqu'à 1914, jusqu'à le début de la guerre. Et bien évidemment, lui, il avait le prélat qui a dit pour qu'on danse le tango debout, mais lui, il a de l'humour, ce qui n'est pas le cas de la hiérarchie catholique, qui dit en gros, en chair et ailleurs, et dans les textes, dans les interviews qui sont faites à l'époque, notamment le Figaro, tout ça, il y a la hiérarchie catholique interdit nommément de lancer le tango à toutes les femmes catholiques en chair. Ils disent, ils ne danseraient pas cette danse, cette musique qui arrive d'abord des bas-fonds, des bordels et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc
oui,
ils l'interdisent.
Ce prélat était un peu finalement hors des clous de la hiérarchie catholique.
Oui, hein. Il était probablement de l'humour. Bon.
Oui.
Et évidemment, il y a un certain nombre de gens qui prennent la défense du tango, notamment un certain Richepin, qui est académicien, et qui prend la parole un jour à l'Académie française en expliquant pourquoi le tango c'est formidable. Voilà, il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Mm. Il y a eu d'autres. Il y a eu Poincaré, le président de la République, qui a été à un bal un soir. Il y a des gens qui dansaient le tango. Alors, on ne sait pas très bien s'il l'a dansé ou s'il l'a seulement regardé, mais en tout cas, il a trouvé ça très bien. Il n'y a eu aucun problème.
Oui.
Donc, le tango devient respectable à Paris, finalement, dans ces années-là.
Assez rapidement. Mmh. Après, ça s'étend, ça va en province. Toutes les couches de la population s'y mettent. Et évidemment, d'une certaine manière, on ne pouvait pas éviter que le tango... En France, et ça a été un peu partout comme ça, ça soit un tango un peu édulcoré du même coup. C'est-à-dire qu'on a un peu... On a fait un tango plus comme il faut que comme c'était vraiment comme là-bas dans Rio de la Plata.
Oui.
Et on a mis très longtemps en France à découvrir ce qu'était vraiment le tango qui se dansait là-bas. Parce que le tango dit de salon qui a été créé à ce moment-là, le tango musette, tout ça, c'est un tango qui n'a rien à voir avec ce qui était dansé là-bas. Mais personne ne le savait puisque personne n'y avait été. Enfin, tantôt, il y en a qui sont allés. il y en a certains, on en parlera tout à l'heure, par la province, mais c'est vrai que les gens dansaient un tango lent, vite, lent. C'est un truc très basique, qui était lassant. Et que, alors ça, évidemment, ça fait émerger l'histoire de ce couple qui s'appelle Georges et Rosie, qui sont installés rue de Varennes. Ils avaient gagné des concours de danse dans les années 30. Ils ouvrent ce cours et le monde entier vient apprendre des danses de salon, là. Tango de salon, basse doble et tout ça. Là aussi, j'ai une anecdote incroyable.
Ah, allez-y, on vous écoute.
En 1935, il y a une voiture militaire qui arrive devant l'immeuble de la rue de Varennes où il y a le cours de Georges et Rosie. Un militaire en uniforme sort de la voiture, le bidasse qui lui ouvre la porte, comme ça, s'incline. Et il rentre et il demande à voir les responsables du lieu, Georges et Rosie, qui arrive. Oui, mon colonel, il est lieutenant-colonel. Mon colonel, vous voulez faire quoi? Il dit, ben, je voudrais apprendre les danses de salon et notamment le tango. Il vient régulièrement toutes les semaines. La fois d'après, il est en civil. Il vient pendant plusieurs semaines comme ça apprendre. Et un jour, Georges et Rosie lui disent, mais écoutez, mon colonel, on vous appelle toujours mon colonel. Quel est votre nom en réalité? Ah, excusez-moi, oui, je peux vous le dire. Je m'appelle Charles de Gaulle.
C'est joli. C'est très beau.
Alors, cher Jean-Louis, vous venez de dresser finalement un panorama des premières années parisiennes de la danse. Mais avant de passer à la musique, ce que je vous propose, c'est d'écouter un tango que vous nous avez proposé et que vous nous avez recommandé. Il s'agit de Joaquina, un enregistrement de l'orchestre d'Auguste Bock en 1907. On va en parler après l'avoir écouté. C'est un enregistrement historique qui craque un peu. Alors on recommande à nos auditeurs et à nos auditrices de bien tendre l'oreille.
Voilà, un joli tapis que notre invité Jean-Louis Mingallon nous a autorisé de faire et même demandé. Nous écoutions Auguste Bock, Joaquina, 1907. Alors Jean-Louis Mingallon, tout de suite, vous aviez des petites choses. Alors d'abord, à propos de ce morceau, oui. Et puis après, de Deauville.
Oui, alors ce morceau, Joaquina, c'est donc Auguste Bock, d'abord le chef d'orchestre, il est français. Il est un justement de ces orchestres qui ont commencé à travailler avant même la danse. Mmh. Ils enregistraient, mais on ne sait pas très bien. Ce n'était pas à danser, il n'y a pas de concert, c'était juste un enregistrement. Et Auguste Bock, il vient de Provins, je crois que c'est Montpellier. Il est formé à la musique classique, mais arrivé à Paris, il a fait le conservatoire et tout ça, et arrivé à Paris, il n'a qu'une idée, c'est de faire de la musique légère. Et donc, il découvre le tango, parce que les partitions circulent, évidemment. Et il tombe un jour sur une partition qui s'appelle Rakina, qui arrive de Buenos Aires, et qui est en réalité une pièce composée par un certain Bergamino, qui est dédiée à la tenancière d'un bordel qui s'appelle Rakina. Parce que voilà, on ne sait pas d'histoire.
Ouais.
On sait très bien les choses, comment elles se passent. Bon, ça, c'est pour l'histoire de Rakina. Alors, non, en deux mots, quand le tango se développe, donc il se développe beaucoup en province aussi, et notamment à Deauville, parce qu'à Deauville, c'est l'endroit où la haute société vient passer ses vacances, notamment en été. Et alors, là, il y a... les archives de tous les illustrateurs, des caricaturistes comme Sem racontent ce que c'est que le tango là-bas. Il y a même un livre qui s'appelle Tangoville, qui raconte le tango à Deauville, c'est le cas de le dire.
Eh bien.
Il y a Van Dongen, qui est le grand peintre,
oui.
Qui a fait un tableau magnifique qui s'appelle Le tango de l'archange. Il adorait le tango, Van Dongen. Donc, dès qu'il pouvait faire du tango quelque part, il en faisait. Il organisait les soirées tango. Bon, ça a joué. La Marie de Resquet, qui a été donc la première quasiment à démarrer avec Giraldès, elle est devenue une grande danseuse. Et dans les archives, et notamment dans un livre qui s'appelle l'histoire tango, ou l'époque tango, qui est écrit par Georges Michel. Elle est citée comme une grande danseuse à Deauville. Et il y a en 1913 une chose incroyable, il y a déjà eu un grand championnat à Paris un peu plus tard en 14, mais en 1913 déjà à Deauville, il y a un championnat de tango. Et là, il y a un garçon qui s'appelle Ludovic Portalon, qui arrive de Buenos Aires, c'est un homme d'affaires. Il a appris le tango dans les bas-fonds, il est en famille à Deauville. Il y a sa nièce qui est là, qui a 14 ans à peu près. Bon, elle s'appelle Adri de Carbuccia. Mm. Adri de Carbuccia, c'est la grande famille, oui. Carbuccia, qui a aussi un salon, qui aura un salon plus tard à Paris. Bon. Et il parle de cette histoire de tango, et il dit, j'aimerais bien le faire ce concours, après tout, moi j'ai appris là-bas, mais je ne sais pas très bien avec qui. Sa nièce lui dit, avec moi. Oui, mais tu ne sais pas, mais t'as qu'à m'apprendre, tonton. Il lui apprend, et il gagne le concours. Tous les deux ensemble.
Donc pour ce voyage, on rappelle qu'on est dans les voyages du tango et c'est une première série. On espère que vous reviendrez. Là, on est en France. Vous nous disiez hors antenne qu'il était important de dire que le tango a ramifié en province et en commençant en province par Deauville.
Oui. Hein, voilà. À Paris, évidemment, beaucoup. On dansait dans les lieux chics d'abord et ensuite on a dansé dans les grandes salles, Magic City, je crois que ça, les trucs immenses. Là, c'est populaire du coup.
Oui.
Alors, on parle de la danse, mais il y a évidemment le développement en parallèle de la musique, des orchestres et donc des générations d'orchestres français qui vont très rapidement s'installer.
On évalue à peu près à 200 à 300 orchestres français de tango à partir de ce moment-là.
C'est énorme.
Énorme.
Hein, énorme.
Avec évidemment autant de... Alors, ils ont commencé par travailler avec les titres, les pièces qui venaient de là-bas. Et puis rapidement, il y a des compositeurs en français dans les orchestres. Mais on va composer des tangos, nous aussi.
Oui, oui.
Alors les paroliers s'y mettent, les compositeurs s'y mettent. Et c'est vrai que ça prend une proportion incroyable. Il y a des dizaines et des dizaines. Et quand on regarde un peu les archives, il y en a plein. Lucchesi, Pesanti, bon, je sais pas, on va tous les citer, c'est gigantesque.
Alors les plus importants, peut-être, on a quand même des noms en tête. On a évidemment Bianco Bacchicha, déjà.
Alors, ce n'est pas français, eux. Ils sont argentins.
Eux qui sont, effectivement, Eduardo Bianco était venu d'Argentine. Il était arrivé dans ces années-là, début des années 20, si je me souviens bien.
Il arrive dans les années 20, absolument. Il arrive... Alors, lui, c'est un cas particulier, Bianco. Hein. C'est la face sombre. C'est à la fois la face magnifique du tango, parce qu'il a créé des choses comme Poema, qui sont une merveille.
Oui, oui, tout à fait.
On adore danser. Bon. Mais la face sombre, c'est ce qui est, comme il était d'origine italienne, il a été parti en Italie à partir des années 25-30. Et là, quand il s'est séparé de Bacchicha, et là, il a dit, en Italie, c'est mon pays, je vais voir un peu comment ça se passe avec le fascisme. Et il tombe amoureux de tout ça.
Oui.
Et il joue avec Mussolini, et ensuite Mussolini l'emmène à Berlin, il joue devant Hitler. Bon, c'est quand même une série de choses très, très compliquées.
Et il a beaucoup voyagé après avec son orchestre, aussi pour éviter d'être trop en Europe, où il n'était plus du tout en odeur de sainteté, évidemment, après la guerre, en effet. Alors, un autre orchestre très important, et vous nous l'aviez indiqué, cher Jean-Louis, c'est l'orchestre Brodmann Alfaro. À cette époque-là, c'était quasiment le plus important.
Oui, c'est le plus important. Il se crée en 28. Et Brodmann, il est musicien depuis un bon moment déjà, début des années 20, et de tango. Et en revanche, Alfaro, qui ne porte pas ce nom en réalité, il a choisi ça pour le tango. Il s'appelait, Lefebvre ou un truc comme ça. et il a donc changé de nom. Et lui, alors, c'est venu beaucoup plus tard. Il était violoncelle au concert Padeloup. Au départ, il n'y a rien à voir avec le tango. Et puis, bon, un jour, il est à Montmartre, il prend un pot au restaurant, je ne sais pas quoi. Il y a des Argentins qui sont là. Il y a un piano, les pianistes commencent à jouer un peu du tango. Et il tombe amoureux de cette musique et il s'y met, voilà. Et en 28, il se retrouve donc avec Brodmann. Et là, ils ont besoin de trouver des bandoneonistes à la hauteur de ce qu'ils veulent faire. Et ils trouvent deux frères qui s'appellent Colombo, qui sont deux frères italiens. Très, très doué pour le bandoneon. Et évidemment, tout ça s'intègre. Et après ça, ça joue. Évidemment, ils ont enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Alors, on a trouvé un enregistrement de 1929. Donc, on est un an après la création de l'orchestre Brodmann Alfaro. Et il s'agit de Papyroussin. Donc, on vous propose de l'écouter maintenant.
Thank you.
Et oui, ça craquait. Brodmann Alfaro, un orchestre français, Papi Roussa, 1929. Vous êtes bien sûr au cœur du tango, à l'YFM 93.1. Quel plaisir, quel bonheur de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Mingallon, qui était déjà venu nous voir et dont je rappelle qu'il est le co-auteur avec Gwenaël Denigo et Emmanuel Honorin de notre petite Bible à nous, grosse Bible, dictionnaire passionné du tango. Alors Jean-Louis Mingallon, vous vouliez préciser quelque chose sur ces orchestres français qui finalement permettent une diffusion du tango. Les orchestres sont français.
Ça commence par les orchestres français. Avant même l'arrivée des musiciens, évidemment du Rue de la Plata, qui arrivent effectivement en masse, il y a quelques-uns qui arrivent avant 14. En 14, tout le monde repart, parce que bon, ça va peut-être rester en Europe, hein, vu la guerre. Et bien, ils reviendront à partir de 1918, 1919. Et là, après, c'est la grande folie. Ils arrivent en masse et les mélanges se font. De temps en temps, les orchestres français utilisent des musiciens du Rio de la Plata. Et inversement, quand les orchestres du Rio de la Plata arrivent, ils utilisent aussi beaucoup des musiciens français qui se sont mis, pour la plupart, d'ailleurs petit à petit, au bandoneon, parce que certains arrivent avec leur accordéon et on leur dit « Mais non, moi, chez nous, c'est le bandoneon. » Donc, ils se mettent au bandoneon. Et tout ça se mélange sans arrêt.
Oui.
Et là, donc, c'est bien de souligner que le tango en France... Ça démarre avec les orchestres français et ensuite ça part.
Si vous disiez hors antenne que ces orchestres français sont mélangés, enfin ils sont déjà le produit de gens issus, par exemple de l'Italie, comme on a entendu pour Brodmann Alfaro.
Exactement.
Oui.
Et dans la même période, c'est aussi la visite de Carlos Gardel, par exemple, à Paris. On est dans les mêmes années.
Il n'est pas venu très souvent chanter finalement.
Oui.
Il est venu souvent à Paris, mais pour chanter, pas tellement. À part le Florida et un truc de charité pour un tremblement de terre qui avait eu lieu dans les Antilles, tout ça, il a joué pour un petit peu d'argent, là, pour la côté de l'argent pour ces gens-là qui étaient dans la mouise. Mais il est, en gros, à part le Florida où il est passé plusieurs fois comme ça, mais il n'a pas tellement chanté à Paris.
C'est vrai, il a un peu enregistré et notamment il a tourné des films aussi dans les studios de Joinville.
Évidemment, oui.
Alors, dans la poursuite de ces orchestres, peut-être on peut mentionner quand même un orchestre important, José Lucchesi.
Oui.
Donc, qui était...
José Lucchesi, qui était un orchestre qui a beaucoup marché à ce moment-là, et notamment qui a créé un truc qui a été dansé ou écouté pendant des années, c'est jalousie. Alors ça, c'est un terme, quand on en parle aux gens d'un certain âge, jalousie.
Véritable standard d'une époque du tango. C'est vrai que c'est un peu marqué, et marqué plutôt français.
Et on va y venir tout à l'heure pour la chanson, mais Tino Rossi, c'est la même chose. Tino Rossi, il a le culot d'enregistrer des chansons en français avec des orchestres argentins. il arrive à se faire accompagner par Canaro quand même, pour le faire.
c'est quand même impressionnant. Alors il y a aussi, et même si on ne va pas s'attarder sur lui, un ambassadeur qu'on adore, qui trouve sa vocation finalement pour le tango à Paris. Et de manière très surprenante, auprès d'une immense pédagogue, il faut le dire, c'était Nadia Boulanger.
L'histoire est drôle parce que quand il obtient cette bourse pour venir travailler avec Nadia Boulanger...
Et on parle bien de Piazzolla.
C'est Astor Piazzolla.
Alors là, c'est Astor Piazzolla ou c'est Astor Piazzolla?
Astor Piazzolla.
La grande bataille sur la prononciation.
D'accord.
Mais moi là-bas, quand je disais Astor Piazzolla, non, Astor... sans prononcer le S, Astor Piazzolla,
c'est beau.
Donc l'histoire est drôle parce que quand il obtient cette bourse, qu'il vient à Paris, il ne veut surtout pas dire à Nadia Boulanger qu'il faisait du tango la nuit avec son bandoneon. Oui. Il n'a qu'une idée, lui, c'est de devenir le Stockhausen argentin ou le Perboulez argentin, mais surtout pas tango. Donc, il commence à travailler avec elle. Elle est surprise par la qualité de son travail, la manière rapide, comme ça, il apprend tout, c'est impressionnant. Et un jour, il lui dit quand même, Astor, en anglais, tout ça, oui, parce qu'il ne parle pas encore français, je ne crois pas. Et donc, il parle comme ça et elle lui dit, mais c'est un petit peu froid ce que vous faites. Ça manque un peu de chair, un peu d'âme. Vous faisiez quoi exactement là-bas, à Buenos Aires, quand vous y étiez? Alors, elle dit, j'apprenais, je prenais des cours avec plein de gens, je voulais apprendre, comme avec vous. On a aussi là-bas des musiciens de cette catégorie-là, Il dit, ah bon, bon. Et puis, elle le reprend sans arrêt, cette histoire de ça manque de chair, ça, de. Et un jour, il craque. Et il dit à Nadia, écoutez, voilà, je vais vous le dire, j'étais bandoneoniste dans les orchestres de tango. Ah bon? Et bien, vous pouvez me montrer ce que c'est que le tango ? Parce que j'ai un peu écouté. Alors, il joue au piano un morceau qu'il vient de composer qui s'appelle Triumphal. Alors, il joue Triumphal, elle l'écoute. Vous pouvez recommencer, Astor ? Elle recommence. Et là, elle lui prend les mains et lui dit : Astor, arrêtez de faire l'imbécile. Votre chemin est là, votre vie est là, c'est le tango. Et vous allez repartir à Buenos Aires, vous allez devenir l'homme du tango de demain. Et il repart à Buenos Aires en 55, donc. Et là, en 55, au moment où Perón se fait liquider, et donc le tango commence à disparaître des ondes, radio, télévision, tout ça, et on le danse pratiquement, c'est le début de la mort du tango qui a fait mourir.
Oui.
En 55, lui, il arrive à Buenos Aires, Astor, et là, il crée le Octeto Buenos Aires, et là, ça démarre. Et on commence à écouter un autre tango avec Piazzolla.
C'est vrai. Il avait déjà créé son premier orchestre en 1946 avant d'obtenir cette fameuse bourse d'études à Paris. Mais effectivement, 1955, c'est le grand retour. Alors, Paris a été également le lieu de la renaissance du tango dans les années 80-90. On va passer très vite, effectivement, les grands spectacles Tango Argentino qui commencent à Paris. Et puis beaucoup de réfugiés argentins qui viennent faire vivre cette culture à Paris. Alors, cher Jean-Louis Mingallon, pour introduire notre dernière partie, je vous propose de revenir en arrière et d'écouter une grande dame de la chanson française. C'est Fréhel.
Oui, que j'adore, moi. Dans un extrait de Tango Fatal, une magnifique chanson, sombre et réaliste, comme Fréhel sait le faire. Alors là aussi, l'enregistrement craque un peu. Écoutez bien, chères auditrices et auditeurs, Fréhel.
Dans le bas quartier de la ville, il est une rue sans nom, où l'on voit une ombre immobile au seuil de chaque maison. C'est la fin du jour, les filles d'amour sont là tristement sans rien dire, guettant le passant ou qu'elle a présent, chacune doit faire un sourire. C'est la rue de la joie, la rue où l'on aime, la rue du plaisir. Elle est froide et sombre, on y vient quand même pour se divertir. On y vient chercher l'ivresse, l'illusion d'une caresse. C'est la rue de la joie, la rue où l'on aime, la rue du plaisir. Souvent le soir dans cette rue, les marins jouent du couteau. Pour les séparer, on se rue, risquant de glisser sa peau. Des fois pour un vent, on a le cœur qui bat, mais comment le lui faire comprendre? Pour se faire aimer, on veut se donner, hélas, on ne peut que se vendre. C'est la rue de la joie, la rue où l'on pleure, la rue du malheur. Personne ne croit que notre demeure connaît la douleur. Si notre cœur se déchire, il faut malgré tout sourire. C'est la rue de la joie, la rue où l'on pleure, la rue du malheur. Lorsque la vieillesse est venue, les pauvres vieux d'amour appellent encore dans la rue le passant qui reste sourd. Objet de dégoût, seul sans un sou, sans personne qui les protège. C'est mourant de faim que cherchant leur faim, elles vont errant sous la neige. C'est la rue de la joie, la rue où l'on crève par un soir d'hiver. Mais on est heureux.
Magnifique, la grande Fréhelle avec son Tango Fatal 1931. Il faut retourner dans cette chanson française, Fréhelle, Damia. On a fait une réécoute, hein, Sylvain, récemment, de tous ces tangos chantés par ces grandes dames. C'est magnifique, on se projette une émission. Vous êtes bien au cœur du tango sur Aligre FM. Voilà, 93.1, et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, le bonheur, de recevoir Jean-Louis Mingallon qui vient nous parler d'un premier voyage de tango, et ça se passe en France. Merci Jean-Louis Mingallon d'être venu. Quelle magnifique chanson, non, Fréhelle, hein ?
Oui, mais il y en a beaucoup d'autres.
Hein. Oh là 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 là.
La chanson française, c'est gigantesque.
Gigantesque, hein. Avec
c'est,
le tango.
C'est incroyable. Alors c'est vrai que dans les grands héritiers du tango, pour moi, peut-être le plus paradoxal et le plus clair, c'est Jacques Brel. Qui pour moi est un des plus grands chanteurs de tango français.
Rosa, c'est magnifique.
Oui. Oui, oui.
Alors pour le rythme, même dans l'esprit, dans l'incarnation finalement de ce qu'était le thème du tango, il a été un chanteur exceptionnel.
Oui, vous pensez à quelle chanson de Brel ?
Rosa.
Ah oui,
qui Rosa. Est un tango au niveau du rythme.
Il y a aussi un autre qui s'appelle le tango de je ne sais plus lequel, Brel, je l'ai marqué quelque part. Brel.
Je ne l'ai pas en tête.
Je ne l'ai plus en tête, mais je crois qu'il a fait un thème qui s'appelle le tango de quelque chose.
Oui, bon, on cherchera, on trouvera.
Alors, il y en a eu beaucoup dans la tradition française. Vous parliez de Tino Rossi tout à l'heure.
Tino Rossi, effectivement, il a chanté beaucoup. Le plus tango tango du monde, c'est celui qui nous enseigne dans vos bras.
Oui, oui.
C'est son film. Il se fait accompagner par les orchestres, je disais tout à l'heure, Argentin. Bon, il y a un peu beaucoup de catégories. Hein. Je dis toujours, il y a le tango poétique, avec évidemment. Léo Ferré, Cosimo,
ah, oui.
Évidemment, le temps du tango, ça c'est sublime. Il y a le tango rigolo. Alors ça, il y en a beaucoup des tangos rigolos. Hein. Ben, il y a celui des Parisiennes, par exemple, dans les années 60, accompagnées par Claude Bolling. Elles chantent
«
tango qui a perdu ta mère ». Ça, c'est quand même incroyable. Il y a un homme qui est là, la femme est partie depuis un moment, et la jeune fille qui a grandi s'est mise au tango, et le père dit à sa fille, donc, n'oublie pas que c'est le tango qui a perdu ta mère. Elle est partie avec un danseur de tango argentin. La chanson rigolote. Bon, il y a le tango pied noir. Enrico Macias a fait des tangos.
Oui.
Il y a tellement.
On parlait aussi d'une valse péruvienne qui était devenue un tango et
la
qui.
La foule.
Et voilà, Edith Piaf qui l'entend dans une de ses tournées en Amérique du Sud décide d'en faire la foule.
Ouais,
et ça devient un immense succès.
Très
et ça relance d'ailleurs la destinée de ce tango qui est devenu célèbre.
Non, c'est impressionnant. Et il y a Boris Vian qui en a fait, des trucs très, très rigolos aussi.
Oui.
Évidemment. Mais, il y a très peu de chanteurs qui ne sont pas attaqués. Alors, soit dans le titre, soit dans le rythme, soit dans le texte, il y a toujours un peu de tango. C'est incroyable.
Oui, oui.
On parlait tout à l'heure d'Astor Piazzolla. Il y en a quand même un qui a réussi à se faire accompagner par Astor Piazzolla pour interpréter un tango en français. C'était Guy Marchand.
Guy Marchand, absolument. Oui. Il chante Libère Tango à sa manière.
C'est vrai.
C'était aussi tout à fait impressionnant. Et puis, un chanteur que j'aime bien aussi, c'est Renaud, qui a chanté effectivement le tango de Massy Palaiseau, qui était quand même aussi.
C'est très drôle. Ouais. Ils sont tous mis. Ouais.
Qu'on aurait pu également choisir.
Il y a aussi le tango méchant avec Trenet. Charles Trenet qui a écrit Ne reviens jamais, horrible tango, qui sont le mégot et la pompe funèbre.
Ah, tiens, donc je ne connais pas, alors que j'adore Trenet.
Eh ben, moi,
donc.
Justement, moi, j'aime pas beaucoup Trenet depuis longtemps, mais depuis que j'ai écouté ce truc, je l'aime plus du tout.
Ah bon ? Oui, j'adore. J'adore Trenet, mais j'avoue que je connaissais pas.
Évidemment, il y a le tango rigolo de Fernandel.
Oui.
Alors, celui de Fernandel, on va y venir puisque c'est celui que nous avons choisi
pour clôturer
l'émission. On a cherché aujourd'hui, cher Jean-Louis, à parcourir comme ça très brièvement ce premier voyage français. On se rend bien compte que c'était déjà bien trop court finalement et ça a juste permis de dresser un premier panorama. Bravo pour cette synthèse, pour aussi le côté savoureux des anecdotes puisque vous avez rendu ce premier voyage extrêmement vivant.
Et il faut renvoyer du côté du dictionnaire passionné du tango aussi puisque puisque vous y avez écrit des articles et qui parcourent aussi cette histoire du tango, mais pas de manière chronologique, et c'est ça qu'on aime beaucoup, hein, mais plutôt de manière thématique. Alors,
effectivement bientôt se quitter, et pour nous quitter, comme d'habitude, on a choisi un morceau, c'est ce tango corse de Fernandel.
Est-ce que je précise quelque chose avant ou
bien
après ?
Bien sûr.
Alors, on pourrait croire que la Corse et le tango, c'est juste l'histoire de Fernandel, avec des paroles qu'on va entendre, qui sont assez rigolotes, c'est vrai, mais il y a aussi des poètes corses qui ont écrit des tangos, et notamment un garçon qui s'appelle Marfisi, qui est mort maintenant, qui a écrit un très très beau tango qui a été repris par beaucoup de chanteurs en Corse, notamment par une grande chanteuse qui est aussi disparue il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jackie Michaeli. Et il a écrit un tango qui s'appelle La Ultima Strinta, la dernière étreinte.
Très bien, ça sera le mot de la fin. On va vous dire, chères auditrices et auditeurs, de passer une bonne semaine sur l'antenne d'Aligre FM. On vous remercie de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, 19h-20h, le jeudi, c'est sur Aligre FM. Je vous remercie énormément, Jean-Louis Mingallon, d'être venu. Nous vous remercions, Sylvain Berthaud et moi-même, d'être venus. Et vous reviendrez, parce que les voyages, ça n'était qu'un début.
Continuons le voyage.
Et le combat. Merci, on écoute à l'instant Fernandel, le tango corse, 1963.
Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, pour les courages fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon, et l'on soupire. Tango corse, que c'est bon. Quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux. Tango corse, c'est encore là qu'on le danse le mieux.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.